France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte le combat du groupe Nakam. Une cinquantaine de femmes et d'hommes juifs d'Europe de l'Est, rongés par l'envie de se venger de la Shoah.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur Inter.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
8h23.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Yaël Gauz, nous recevons ce matin la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le grand entretien du 7-10. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Nicole Belloubet, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. On va parler dans un instant du sursaut d'autorité voulu par Gabriel Attal pour lutter contre la délinquance des mineurs. Sujet qui passe évidemment aussi par l'école. On évoquera la question des jeunes et des écrans, la revalorisation du métier d'enseignant. Mais d'abord, quelques mots sur ces blocages qui ont eu lieu dans certaines universités. Hier après-midi, la police est intervenue pour évacuer une cinquantaine de militants de la cause palestinienne qui avaient installé leur tente dans la cour de la Sorbonne à Paris. Vendredi, c'est Sciences Po Paris qui a été bloqué. Quel regard portez-vous pour commencer sur ces mobilisations-là?
Moi, je comprends que, pour reprendre l'expression de Pierre Aski, les vents de folie qui soufflent au Proche et au Moyen-Orient suscitent des débats, suscitent des interrogations, et c'est le lieu même de l'université que de débattre. Ce que je ne comprends pas, et je trouve ce qui est inacceptable, c'est que ces débats se transforment en blocage, en intimidation, et qu'il y ait d'ailleurs des exploitations politiques, politiciennes de ces situations. Et ça, je trouve que c'est difficilement acceptable.
Pour vous, ces mobilisations, c'est l'activisme d'une minorité agissante et dangereuse, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, ou simplement la liberté de s'engager, de manifester, comme on l'a déjà vu par le passé, pour le Vietnam, par exemple.
Je pense que beaucoup d'étudiants ont envie de débattre de ces situations et de débattre très librement, et c'est le lieu même de l'université. En revanche, on voit bien qu'une partie de ces mobilisations relève d'exploitation politique.
Soyez plus précis, vous pensez à qui? Arima Hassan, aux Insoumis, à Jean-Luc Mélenchon?
Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon tenir les propos qu'il a tenus, je pense qu'il y a une instrumentalisation et que c'est difficilement audible au sein de l'université.
Vous redoutez que ces mouvements prennent de l'ampleur ou vous estimez que c'est marginal ?
À ce stade, il me semble que c'est marginal. Je pense qu'il y a la nécessité de débattre, je le redis ici, mais il me semble que nous pouvons, par le débat, interrompre ces situations.
On a appris hier soir que la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, voulait aller suspendre les financements de Sciences Po tant que la sécurité, dit-elle, ne serait pas revenue dans l'établissement. Est-ce que vous partagez ce type de mesure ? Suspension des financements publics à Sciences Po ?
Je pense que la direction l'a dit, d'ailleurs, je l'ai lu ce matin, sous les mots du directeur actuel de Sciences Po, c'est évidemment regrettable pour l'institution. Il me semble qu'il ne faut pas surréagir immédiatement à une telle situation.
Elle surréagit, Valérie Pécresse ?
Je pense qu'il est nécessaire de laisser les événements et la direction agir comme elle l'a proposé dans la semaine qui vient, et ensuite les mesures qui devront être prises pourront l'être.
Venons-en au plan contre la violence des mineurs, priorité du Premier ministre Gabriel Attal dans son printemps des urgences. Des consultations avec les groupes politiques ont démarré hier soir. Cette phase doit durer 2 mois. Qu'en attendez-vous comme ministre de l'Éducation nationale ?
Moi, si vous voulez, comme ministre de l'Éducation nationale, je suis aussi ministre de la Jeunesse, comme ministre de l'Éducation nationale, ce que je dis évidemment, c'est que l'école, c'est le réceptacle de ces violences, et c'est aussi l'antidote à ces violences. C'est-à-dire que la mission première de l'école, c'est évidemment l'éducation, et l'éducation, ça passe par le respect, parce que on ne peut pas, évidemment, développer l'apprentissage des savoirs, on ne peut pas développer le savoir-être social s'il n'y a pas un minimum de règles et que ces règles soient respectées. Donc, Vraiment, l'autorité pour moi est un élément du respect des règles, et de ce point de vue-là, évidemment, tout ce qui est proposé mérite d'être étudié.
Il y a beaucoup de propositions sur la table, hein. Internat pour les élèves ayant de mauvaises fréquentations, le retrait de points au brevet et au bac en cas de perturbation grave dans l'établissement scolaire, les travaux d'intérêt éducatif, qui seraient l'équivalent des travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans. Comment est-ce que vous décrivez la philosophie de toutes ces mesures ? On serre la vis ?
Tout ne relève pas du ministère de l'Éducation, à strictement parler, n'est-ce pas ?
La preuve, là, c'est l'intérieur, c'est la justice.
Absolument.
Et c'est bon.
Donc, oui, mais pour ce qui me concerne, moi, je le redis ici. La priorité, pour moi, c'est de faire réussir tous les élèves. Pour cela, il faut un cadre, il faut des règles, il faut que ces règles soient respectées. Donc, il y a des éléments qui seront pris en compte. Je pense, par exemple, dans le premier degré, il faut que nous ayons un mécanisme de punition qui existe déjà, qui soit harmonisé, qui soit clair. Il faut également que...
Conseil de discipline, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, pas du tout. Non. J'ai dit harmonisation des punitions. C'est-à-dire que tous les parents sachent que, voilà, face à un fait, et tout fait mérite réponse, eh bien, les punitions seront les suivantes. C'est une harmonisation qui, aujourd'hui, n'existe pas. Chaque école gère... les choses comme elle l'imagine. Donc, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels nous devons progresser pour que les règles soient claires pour tous. On a même envisagé, et c'est d'ailleurs, je crois, une proposition du Premier ministre, que les parents puissent signer une charte ou un contrat lorsque leur enfant s'inscrit à l'école. Ça me semble relever du bon sens. Donc, il y a des éléments qui méritent vraiment d'être pris en compte, d'être traités, et ce sera l'objet de la concertation.
Ces réflexions sur l'autorité, vous l'avez dit, sont au carrefour de différents ministères. Le gouvernement se dit prêt à débattre de la levée de l'excuse de minorité, c'est-à-dire ce principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Y êtes-vous favorable, vous qui avez été ministre de la Justice, il n'y a pas si longtemps quand même, avant d'être ministre de l'Éducation et de la Jeunesse.
Je ne veux pas du tout empiéter sur le terrain mon collègue garde des Sceaux.
Ça vous concerne aussi.
Je dois dire que lorsque j'étais garde des Sceaux, c'est un... J'ai porté vraiment la dernière réforme du Code de justice pénale des mineurs, avec, me semble-t-il, beaucoup d'évolutions positives. Je m'étais opposée à cela. C'était déjà une question qui était arrivée sur le débat, et je m'y étais opposée. Je considère en effet que le mineur, c'est toujours un être en devenir, et que donc l'éducation, c'est d'ailleurs la philosophie de l'ordonnance de 45, l'éducation doit primer. Je ne suis pas naïve, c'est-à-dire que je me rends bien compte qu'il faut réagir de manière systématique dès lors qu'il y a un fait de violence. Pour autant, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, je ne reviens pas sur les positions que j'avais alors défendues.
Donc vous ne partagez pas cette idée de Gabriel Attal d'ouvrir le débat sur la levée de l'excuse de minorité ?
Non, le Premier ministre a raison d'ouvrir le débat. Je vous donne ma position.
D'accord. Sur le cas de la jeune Samara, 13 ans, agressée sauvagement par un groupe d'adolescents le 2 avril devant son collège de Montpellier, 5 mineurs sont mis en examen pour tentative d'homicide. La mère de Samara avait accusé l'équipe pédagogique de ne pas avoir pris assez de mesures pour protéger sa fille. Et les profs, indignés à l'époque du collège Arthur Rimbaud, avaient refusé de donner cours le jour de la rentrée. Vous aviez déclaré que votre main ne tremblerait pas. Que dit l'enquête administrative que vous avez diligentée ?
Bien, écoutez, l'enquête administrative dit deux choses, me semble-t-il, très importantes. Elle dit d'une part que ce collège, le collège Arthur Rimbaud, est très engagé dans la lutte contre le harcèlement et que sur le cas particulier de la jeune Samara, qui est un drame pour nous tous, il faut quand même le dire, et j'ai eu l'occasion d'être en contact à plusieurs reprises avec sa maman, sur ce drame-là, le collège, au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance, a fait tout ce qui était en sa possibilité de faire, c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi de l'élève, elle a été entendue plusieurs fois, je veux dire par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit, et au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire.
Pas de négligence du collège.
Je n'ai pas relevé, et l'enquête administrative n'a pas relevé de négligence. Mais en revanche, ce qui clairement a été relevé, et d'ailleurs juste simplement pour dire aussi, il est très important que les chefs d'établissement des collèges où sont scolarisés les enfants agresseurs prennent les mesures disciplinaires d'exclusion sans doute qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment, il faut être très ferme vis-à-vis des élèves qui sont considérés comme agresseurs. Le deuxième point qui est relevé par l'enquête administrative, bien que nous n'ayons pas pu avoir accès au téléphone portable des élèves, parce que ça relève de l'autorité judiciaire. Le deuxième point qui est à relever, c'est évidemment le fait que les réseaux sociaux, et notamment ces fameux comptes Ficha, sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé avec des images qui ont circulé, qui étaient considérées comme porteurs de mépris, de haine, etc.
Y a-t-il une dimension religieuse dans ces actes dont Samara a été victime? L'enquête
Ce que dit l'enquête administrative, que je rendrai publique d'ailleurs, en tout cas en enlevant les données personnelles qui n'ont pas à être publiques, mais ce que dit l'enquête, c'est qu'il y a certainement un contexte communautaire, mais que celui-ci s'est sans doute trouvé accentué par les images qui ont été véhiculées sur ce compte Ficha.
Selon son avocat, la mère de Samara souhaite maintenant scolariser sa fille dans le privé. Est-ce que c'est pas un échec pour l'école publique?
Je considère que la situation est tellement particulière qu'on ne peut pas parler d'échec. Nous le savons, il y a plusieurs modalités de scolarisation qui ont d'ailleurs été proposées à Samara, c'est-à-dire à la fois l'instruction en famille, je crois qu'elle est d'ailleurs actuellement toujours dans sa famille, ou bien l'instruction en établissement, c'est le choix de la mère que je respecte en l'occurrence.
Nicole Belloubet, pour couper...
Mais d'autres collèges publics pouvaient l'accueillir et nous l'avons proposé, bien sûr.
Nicole Belloubet, pour couper un jeune de ses mauvaises fréquentations, Gabriel Attal propose aux parents un hébergement en internat, soit pendant les vacances scolaires, soit toute l'année. Sur le fond, est-ce que l'accord des parents ne va pas limiter la portée d'une telle mesure? Puisqu'il faut l'accord des parents, évidemment, pour envoyer un enfant en internat.
Alors, moi, j'étais hier à Toulouse, et justement, je suis allée voir des internats. Et l'internat, au fond, s'est fait, je le redis ici, pour assurer la réussite éducative de tous les jeunes. Et donc, nos internats permettent d'accueillir des jeunes qui sont soit distants géographiquement, soit qui ont des difficultés sociales, et avec le reste à charge zéro que nous mettons en place, c'est un élément important, soit pour prendre en charge des jeunes qui veulent se couper de leur environnement. Mais dans cette triple dimension, éloignement géographique, éloignement social, éloignement comportemental, l'objectif c'est toujours celui de la réussite éducative, et c'est ce que nous voulons faire avec les internats dont j'ai la responsabilité, qui sont les internats pendant le temps scolaire. L'internat que j'appelle Dupont-Moretti pour simplifier, a une autre visée dans laquelle je suis moins partie prenante, je suis moins acteur de ce schéma-là.
On va passer au standard d'Inter où nous attendent beaucoup d'auditeurs. Guylaine, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, je m'interroge et je vous interroge sur la place grandissante accordée aux écrans à l'école, hein, sous forme de tablette par exemple. Ça me semble paradoxal, alors que le gouvernement et bien d'autres souhaitent réfléchir à l'exposition des jeunes aux écrans. Alors, on pourrait me répondre qu'il s'agit précisément de faire une éducation à l'utilisation des écrans. En réalité, ça va bien au-delà. Hein. C'est considéré comme un outil pédagogique. Et à mes yeux, l'école est justement le lieu par excellence où on devrait privilégier le livre. Voilà,
merci.
J'aimerais savoir l'opinion de notre ministre.
Merci infiniment pour cette question. Cécile, sur l'application d'Inter, va dans le même sens. Comment mieux réguler les écrans quand l'éducation nationale a distribué, entre guillemets, à grande échelle, des tablettes dès le collège, sans aucune ou si peu de formation et d'accompagnement?
Et j'ajoute que la Suède est revenue en arrière et que les manuels scolaires ont fait leur retour dans les écoles suédoises.
Nicole Belloubet.
Je n'oppose pas le livre au numérique. D'ailleurs, cet été, nous lançons une grande opération, j'espère avoir le concours de France Inter, qui s'appellera « Cet été, je lis » où nous donnons des livres aux élèves de CM2. Pour autant, moi, je suis très claire sur le fait qu'il faille distinguer, de mon point de vue, et nous verrons ce que dit la commission écran qui rendra son rapport cet après-midi, il faut distinguer, selon moi, l'usage du téléphone, des réseaux sociaux, qui doit être, à mon avis, totalement réglementé, en tout cas pour les enfants, de l'usage du numérique pédagogique. Et pour moi, un outil numérique accompagné, c'est-à-dire avec l'enseignant à proximité, qui mesure les apprentissages et les progrès des apprentissages. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être rejeté, parce que il est absurde de penser que notre société future se fera sans numérique. Et si l'école ne travaille pas à l'utilisation du numérique avec les enfants, alors je crois que notre école de demain est totalement ratée.
Alors ce rapport, vous en parliez à 16h au Miel Élysée, commandé en janvier, une dizaine d'experts dedans. Les conclusions sont claires, il faudrait, selon les experts qui remettent leur document à Emmanuel Macron, interdire l'usage des écrans au moins de 3 ans et interdire les téléphones portables au moins de 11 ans. Le rapport pointe des conséquences sur la santé, le développement des enfants, enjeux civilisationnels, dit le rapport. Comment on fait pour réguler ça? Est-ce que la loi est compatible avec ce qui se passe dans l'enceinte familiale, dans le privé?
Alors c'est évidemment très difficile. Moi, je suis très favorable à ces mesures-là, qui n'ont pas encore été présentées, je le dis, mais enfin, j'y suis très favorable. Et j'ai moi-même parlé, il y a quelques temps, d'une pause numérique au collège, en disant vraiment qu'il fallait éviter à tout prix la circulation des téléphones portables dans les collèges.
On les interdit à l'entrée? Comment on fait?
Mon idée, à vérifier pour la mise en œuvre, on peut l'expérimenter, il y a une loi qui interdit cela. Mais l'idée, c'est évidemment que les portables puissent être déposés à l'entrée et qu'ils ne circulent pas dans les collèges, puisque c'est ça qui s'est passé sur l'affaire Samara.
Ça va se faire? C'est matériellement possible?
Je pense que c'est matériellement possible. Je voudrais vraiment que nous puissions faire cela. Après, c'est une autre question que celle que vous posez sur l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux et l'autorisation portable, parentale, entre 13 et 15 ans. On a des idées sur la manière de faire. Nous disposons à l'Éducation nationale d'un portail qui s'appelle EduConnect. Il faut mesurer sur la question de savoir si cela peut être utilisé ou s'il y a des difficultés en matière de données partagées. Ça, c'est un point qui mérite d'être travaillé.
Retour au standard. Bertrand nous appelle de Biarritz. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonjour. J'avais une question pour Mme Belloubet. Puisqu'on entend, vous venez de le dire, il faut harmoniser des punitions. Un versant très répressif, des couvre-feux dans les tomes, par M. Darmanin, interdire le téléphone. En fait, je me demandais simplement où on était, versant éducatif et accompagnement éducatif, que ça soit des parents, des jeunes enfants ou des adolescents. On a un métier qui s'appelle EducSP, éduc de rue, qui ne fait que chuter. Il en manque énormément en France, il y en a 65 000. Et c'est un métier qui devrait pouvoir répondre à de nombreuses questions.
Vous êtes enseignant?
Non, je suis
spécialisé.
Merci en tout cas pour cette intervention, Bertrand. Nicole Belloubet vous répond.
Moi, je réponds très clairement. L'éducation nationale, sa première mission, c'est d'éduquer tous nos enfants. Et c'est les apprentissages. Et je le dis franchement parce que c'est ce à quoi je crois profondément. Et c'est d'ailleurs ce que j'aimerais porter. C'est vraiment ne laisser personne au bord du chemin. Et c'est travailler sur cet aspect éducatif pour tous. Donc, cela étant dit, il me semble que les apprentissages ne se réalisent que dans un climat de sérénité. Sinon, on n'arrive pas à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de différents types d'enseignants. Monsieur parlait à l'instant des éducateurs spécialisés. Il parlait, en tout cas en filigrane, des psychologues de l'éducation nationale, des infirmiers. Il est infirmier. Nous avons besoin de tous ces personnels. Et oui, je le reconnais, nous avons une faiblesse. Nous n'avons pas assez de médecins scolaires, pas assez de psychologues, pas assez d'infirmiers. Et nous devons faire un effort important de ce point de vue-là.
Comment vous allez faire, puisque on a vu, il y a un débat budgétaire hier à l'Assemblée. Comment vous allez faire? Votre ministère doit déjà concéder 700 millions d'euros d'économies sur les 20 milliards, enfin 10 plus 10 de 2024. Il y a une pression budgétaire aussi pour vous?
Bien sûr, il y a une pression budgétaire. Bon, si vous voulez, en tant que membre du gouvernement, il est normal que je participe à cet effort budgétaire. Nous avons veillé à ce qu'aucun poste ne soit supprimé. C'est évidemment très important. Et par ailleurs, nous essayons de gérer mieux le potentiel dont nous disposons, et c'est le cas notamment avec les évolutions sur la formation des enseignants.
Mais pour être clair, vous n'êtes plus sanctuarisé?
Je ne sais pas si on l'a jamais été. En tout cas, c'est une priorité, l'éducation, clairement, et je me bats pour cela, je me bats pour avoir des emplois, c'est évidemment tout à fait essentiel, mais je le redis ici, au fond, nous devons mieux recruter. Parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des profs devant les élèves. Mieux recruter, c'est la formation des enseignants, avec, vous le savez, l'effort qui va être fait, notamment un effort financier, puisque après le concours, les élèves fonctionnaires seront rémunérés.
Avez-vous trouvé les 2330 postes nécessaires pour les groupes de niveau?
Oui, je les ai. Nous cherchons les hommes et les femmes qui s'assieront sur ces chaises.
Vous les cherchez?
Vous avez le budget, mais vous n'avez pas les gens, c'est ça?
J'ai le budget, nous cherchons les gens, pas sur ces postes-là spécialement. Nous avons besoin de recruter, je le dis ici, parce que nous n'avons pas assez de fonctionnaires titulaires, ce qui est notre objectif ultime. Nous avons besoin de recruter des personnels contractuels. Nous sommes en cours de recrutement pour les former avant la prise de fonction.
La formation des enseignants, vous en parliez, avec un nouveau type de master pour les futurs profs, des élèves fonctionnaires payés 900 euros en master 1. L'Élysée avait parlé de 1400.
Oui, ça n'est pas
tranché. Pourquoi finalement 900 ?
Ça n'est pas tout à fait tranché, cette question-là. Donc, nos étudiants qui auront le concours au niveau de la licence seront rémunérés dans les deux années qui suivent, années au cours desquelles ils seront
à la fois
en stage devant les élèves et en même temps en poursuite d'études de master. Les secondes années seront rémunérées 1800 euros. Oui. Sur les premières années, il y a encore un débat entre 900 et 1400.
Et est-ce que c'est...
Mais je rappelle que l'année dernière, ils n'avaient pas de rémunération.
C'est pas la même chose pour motiver les futurs enseignants.
Non, mais je pense que la carrière telle qu'elle se dessine, avec un parcours d'excellence, sera un atout considérable.
On retourne au standard. Bonjour Eugénie.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci. Madame la ministre, il manque plus de 200 000 AESH en France, et donc 200 000 enfants et 200 000 familles qui sont impactées par ce problème. J'aimerais savoir quand est-ce que le gouvernement et vos services mettront les moyens suffisants pour payer correctement ces AESH, les recruter, les former et arrêter le scandale qui en découle, c'est-à-dire la bataille sur le terrain des parents qui criera le plus fort au pial pour permettre d'avoir un AESH pour l'inclusion de son enfant en situation de handicap.
Merci.
On rappelle AESH, hein, accompagnant des élèves en situation de handicap.
Absolument. Nicole Belloubet, réponse.
Bien, je voudrais juste dire que je comprends parfaitement la douleur des familles qui se trouvent dans cette situation-là. L'école, aujourd'hui, sur la volonté du président de la République, est devenue ce qu'on appelle l'école pour tous, c'est-à-dire une école qui accueille tous les élèves. Nous avons actuellement plus de 400 000 élèves qui sont porteurs de handicap, qui sont accueillis dans les écoles, et c'est tout à fait naturel. Nous avons créé, autour de cette nouvelle politique publique, un nombre de postes extrêmement importants, notamment en recrutant des AESH, et nous avons plus de 150 000 personnes qui actuellement jouent ces fonctions d'AESH. À la rentrée prochaine, 3 000 AESH supplémentaires. Mais il est vrai, je le reconnais ici, que nous n'arrivons pas encore suffisamment à accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des élèves porteurs de handicap. Il faut que je travaille avec ma collègue Catherine Vautrin, parce que c'est au fond un mécanisme santé-éducation qui doit travailler ensemble pour accueillir ces élèves dans de bonnes conditions.
Les élections européennes, dans 41 jours, vous étiez ministre, mais aussi militante, en meeting hier avec Valérie Ayé à Toulouse.
Absolument.
Liste largement devancée par celle du RN et aujourd'hui concurrencée par celle de Raphaël Glucksmann. Pourquoi la campagne ne prend pas chez vous ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois qu'il n'y a pas que chez moi. Je crois que la première des choses, chez moi que chez nous, je crois qu'il n'y a pas que, si vous voulez, la première des choses, c'est d'inciter les Français à voter. Parce que l'Europe, c'est notre quotidien. On a beaucoup de mal à faire comprendre ça. Mais l'Europe, c'est notre quotidien. De tout point de vue, qu'il s'agisse d'éducation, c'est Erasmus, qu'il s'agisse de justice, on voit bien qu'une décision qui est aujourd'hui prise par le tribunal de Toulouse, elle est immédiatement applicable en Allemagne.
Mais votre liste a-t-elle encore le monopole de l'Europe ?
Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument aller voter. Ensuite, la liste portée par Valérie Ayé, qui est une candidate très tonique et très sérieuse par le rôle qu'elle a joué et qu'elle joue encore au sein du Parlement européen, dit à quel point l'Europe, c'est vraiment une bataille au quotidien pour essayer de faire avancer les dossiers. Prenez le pacte asile et immigration. On peut dire qu'il n'est pas suffisant, on peut dire qu'il ne répond pas à tous les objectifs, mais il existe et il va permettre de faire évoluer les choses. Ce que je remarque, c'est que Valérie Ayé l'a porté, c'est que M. Glucksmann ne l'a pas adopté. Et donc, c'est évidemment un point majeur de différenciation dans l'attitude que nous avons au sein des instances européennes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre liste doit être privilégiée.
Eh bien, c'est...
Oui, encore une question. Gabriel Attal a longtemps hésité à débattre directement avec Jordan Bardella. Depuis hier, on sait qu'il est prêt à le faire. Étiez-vous de ceux qui l'incitaient à entrer dans ce duel-là ? Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que ça vous enferme dans le rôle de challenger ?
Non, je pense qu'on a toujours intérêt à débattre. Et que, franchement, montrer que M. Bardella a des positions qui soit ne sont pas réalistes, soit qui sont parfois contradictoires, eh bien, le rôle de Gabriel Attal, de ce point de vue-là, est tout à fait essentiel. Et je suis sûre, je connais le talent du Premier ministre et évidemment il n'aura aucun mal à montrer à quel point le travail qui est conduit par les élus Renew au niveau européen est essentiel.
Merci Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, d'avoir été au micro de France Inter
Merci
ce matin.
Vous.